Canal Académie. On retrouve Jean-Louis Chambon.
Les banques sont des miroirs. Pendant que s'instruit le procès des banques, sur la place publique, à grand renfort médiatique, de débats, de Saint-Just, aux mots jamais assez durs contre les spéculateurs qui rançonnent leurs clients, selon leur dire, le grand silence sur le sujet de la parole publique et des partis au pouvoir est devenu assourdissant. L'honnête homme, comme celui de la rue, s'interroge. Que peut cacher un tel consensus dans un pays où même l'appellation de mademoiselle déclenche controverses et passions? La première piste de réponse est historique. Une culture nationale d'héritage révolutionnaire contre les bourgeois, les riches, les rois et les instruments de leur pouvoir, l'argent et les banques. Si l'on ajoute à cela 50 ans d'enseignement de l'économie, majoritairement d'inspiration étatico-marxiste, dont il résulte une inculture économique de la société civile assez terrifiante, on comprend le retour de cette tentation du bouc émissaire qui frappe les banques. Coupons-leur la tête, si on ne sait pas pourquoi, elles le savent sans doute. Eh bien non, à bien y regarder, les banques françaises n'ont rien à se reprocher qui puisse justifier ces propos haineux et cette volonté, je cite, de les mettre au pas ou sous tutelle. Victimes de la crise mondiale de 2008, elles ont été d'abord taxées à travers le soutien de leur trésorerie à hauteur de 2 milliards d'euros, ce qui est un comble. Qu'aurait-on entendu si ce même type d'aide à un secteur en crise mondiale, par exemple celui des agriculteurs, aurait entraîné une telle rançon? Il est en effet dans la mission de l'État de venir soutenir un secteur en crise, et particulièrement lorsqu'il s'agit d'une crise aux racines mondiales. L'autre procès est déjà largement instruit, car c'est une évidence pour l'opinion. Et ceux qui entretiennent cette idée, les banques sont d'horribles spéculateurs et donc des diables qui se nourrissent de la misère du peuple. Eh bien non, en déplaise à tous les frontistes, il n'en est rien. Sauf exception pour quelques établissements, elles n'ont enregistré que des dégâts collatéraux du système installé par les dérives des banques anglo-saxonnes, subprime et haute toxicité. D'ailleurs, elles sont sorties renforcées relativement à leurs consoeurs anglo-saxonnes de la première crise. Quant à la crise de la dette, peut-on sans être ignorant ou totalement hypocrite leur reprocher d'avoir donné la priorité à leur mission première de financement de l'économie en répondant aux demandes insistantes du financement des États européens qui ont passé les stress de l'entrée à l'Europe, certes en trichant et éhontément pour certains, mais des États qui étaient notés 3A par les agences de notation et donc censés représenter un risque souverain de facto incompatible avec un défaut de paiement. Que l'on sache, les États sont des acteurs majeurs de l'économie, dirigés en principe par des hommes politiques, responsables et démocratiquement élus, en charge des finances publiques et de la dette. La faute à qui si aujourd'hui ces pays sont en situation de grande fragilité? Puis se fait le tour des régulateurs européens de faire valoir sur le dos des banques leur interprétation hasardeuse anti-crise systémique, la logique du toujours plus. Plus de fonds propres, plus de règles, plus de normes. Hélas, ces experts sont en retard d'une guerre de la finance. Aujourd'hui, la shadow bank, c'est-à-dire les fonds apatrides, les hedge funds installés dans les paradis fiscaux, etc., c'est-à-dire l'ensemble des acteurs qui échappent au périmètre repérable et régulable, constitué par les banques et les établissements financiers dépendant d'un cadre institutionnel, pèsent entre 7 et 10 fois le PIB américain, 100 000 milliards de dollars. C'est dire des volumes considérables de haute monnaie, totalement décorrélés des mesures de contrôle classiques et qui bien souvent se nourrissent des trous noirs que crée une régulation partielle et donc improductive. Les rumeurs venues d'outre-Atlantique, est-ce vraiment un hasard? Elles ont été la première cause de l'effondrement des cours de bourse des banques européennes et donc françaises. Aussi, on comprend très mal pourquoi la défense du système bancaire national n'a pas fait l'objet d'une détermination totale? Les banques ne sont-elles pas le premier facteur civil de la souveraineté des États? Mais il n'était sans doute pas très facile de s'opposer à la rumeur et d'avouer que le surendettement ne venait pas des banques, mais des États eux-mêmes. Tel est donc ce qui se cache derrière ce déni politique de réalité, une crise de solvabilité des États du monde occidental, dont les banques sont à la fois les victimes et les boucs émissaires. Dans ce sens, les banques sont des miroirs de la société et du temps dans lesquels elles évoluent. Les miroirs d'une forme de décadence intellectuelle et morale venue d'abord du monde anglo-saxon, copiée partiellement par le reste du monde, qui a laissé, par complicité objective d'intérêt, ses places financières Wall Street et la City, échapper à tout contrôle, qui a fait grandir ses banquiers voyous, dont Goldman Sachs est la plus parfaite incarnation, avec des instruments, les bonus, et des acteurs deus ex machina, les traders, exacerbant la cupidité et les visions court-termistes. Les miroirs aussi d'une pathologie du politique qui, par ses indécisions, ses atermoiements et son insuffisance de courage moral, a alimenté la crise de solvabilité des États en entretenant l'inquiétude des marchés et en s'avertuant en toute hypocrisie à laisser croire à l'opinion déjà largement dogmatiquement convaincue que la crise de la dette vient de l'action des banques. Des miroirs enfin de l'absence de mémoire de nos dirigeants qui, avec une tendance masochiste aggravée, ressortent toujours les vieilles recettes, pourtant usées par l'histoire jusqu'à la corde, qui, espérons-le, comme le prétendait Marx, ne servira pas à les pendre. Plus de contrôle de l'État, des solutions qui n'ont jamais marché nulle part, et si aujourd'hui c'est le cas en Chine, il faut aussi se rappeler du cas de la Corée du Nord. On voit mal comment il pourrait en aller autrement de ce qui, hier, a fait naître les plus belles bérésinas financières sous la direction et le contrôle des représentants de l'État ou issus de l'école de l'administration tels que le Crédit Lyonnais ou Dexia, plus près de nous, avec un président dont les exigences de rémunération annexes, en dépit de sa responsabilité qui vient d'être mise au grand jour dans la faillite de l'établissement, n'ont rien eu à envier aux pires pratiques du secteur privé. Les tenants du capitalisme totalitaire versus national, dont la Chine est le grand champion, devraient avoir en tête cette autre réalité rapportée par le New York Times à travers son rédacteur David Barbosa. Les banques, dans ce système, consentent des prêts sur injonction du parti, laissent des épargnants au profit des entreprises publiques. Voilà le modèle. En serait-il véritablement autrement en France si les banques étaient dans la main exclusivement des fonctionnaires ? Nous serions donc bien inspirés de trouver des solutions plus démocratiques que la mise sous tutelle des banques françaises. Si elles sont malades, c'est aussi le pays qui est malade. Les banques sont des miroirs de la société dans laquelle elles s'insèrent, un acteur central de l'économie. Il n'y a pas de pays prospère sans banque prospère, rentable et forte, ce qui suppose des fonds propres importants, donc des profits et des actionnaires. Mais il n'y a pas d'actionnaires sans dividendes pour rémunérer les risques de l'investissement. Rien n'est donc plus contre-productif que la logique du bouc émissaire dans une stratégie de long terme. S'en prendre à son système bancaire, dont la puissance est l'un des instruments de la souveraineté des États, c'est agir contre ses propres intérêts. Le bouc émissaire, selon la légende, était envoyé dans le désert pour expier les péchés du peuple. Mais pour traverser les terres arides qui s'annoncent devant la prochaine décennie, la liberté de choix des Européens se situe seulement dans le choix de la monture, entre le chameau et le dromadaire. Le risque serait de se laisser tenter par les petits lapins sortis du chapeau des adeptes de la baguette magique, dont les détracteurs des banques sont les premiers représentants. Les banques sont des miroirs.